Nous retrouvons Pierre Dumont. On a parlé ensemble de l'histoire du protestantisme en Beauce. Dans cette dernière partie, on va parler de différents épisodes de la religion protestante, la reconnaissance par Louis XVI du protestantisme et la réhabilitation des familles. Ça, c'est en 1788, Pierre,
c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, cette réhabilitation, elle n'a de réhabilitation que le nom. Ils avaient le droit, en fait, d'être inscrits sur un registre de telle manière d'avoir un état civil. Point final.
C'est pour la forme.
Voilà. Mais sous la pression de Malherbe, sous la pression de gens comme Lafayette et des grands penseurs de l'époque, dont certains étaient catholiques, l'abbé Grégoire par exemple, ils ont eu la possibilité au moins d'avoir un registre qui leur donne une forme de citoyenneté, qui leur permet d'être reconnus auprès des notaires, qui leur permet d'être reconnus dans l'acte de mariage.
Voilà, c'est un acte officiel.
Oui. Donc, ils ont pu au moins exister en tant que minorité, dans le sens ancien de minorité, c'est-à-dire que vous êtes une religion mineure, nous sommes une religion catholique qui est la religion majeure. Ça n'a pas duré longtemps, la Révolution est arrivée. Et tout de suite, pendant la Révolution, un certain nombre de révolutionnaires ont dit « il faut qu'on repense cette idée-là de religion proprement dit, et de droit de chacun au droit religieux. Ça, c'est juste après l'être suprême, parce qu'il y a eu une période où tout le monde devait croire la même chose au même endroit. L'ensemble des églises du coin étaient devenues des temples, mais des temples de la religion révolutionnaire. Ça n'a pas duré longtemps, et il s'est passé qu'à la sortie de cette période révolutionnaire, Concordat, fin de la Révolution, etc., les catholiques et les protestants, qui étaient des gens qui se fréquentaient depuis très très longtemps, qui ont fait la Révolution ensemble, pas forcément du même côté, se sont assemblés et que là, il y a eu une disparition du protestantisme qui s'est un peu fondue dans « je suis un catholique non pratiquant ». Ça n'a pas vraiment, à la sortie de la Révolution, à part dans les grandes villes, dans la grande aristocratie, ou dans les grands bourgeois, où là c'est resté leur religion, à la campagne proprement dit, on avait fait la Révolution. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres formes de pensée qui plaisaient beaucoup, qui n'étaient pas le protestantisme, mais qui étaient souvent issues de formes de pensée protestante au départ. Qu'était l'humanisme et qu'était la démocratie.
D'accord.
Donc, ces gens-là sont devenus, après, l'adjoint au maire, le maire, etc., sans se dire protestants, sauf qu'une petite partie a voulu continuer et a demandé la création des temples.
D'accord. Donc, la Révolution a dilué le protestantisme, on va dire, dans le catholicisme. Et donc là, après la Révolution, effectivement, tout le 19e siècle, ça a été une époque où on a construit des temples, quand même, comme à Orléans. Et il y a eu des épisodes un petit peu particuliers, comme une pétition à Orléans contre la construction du temple.
Oui, le projet du temple avait un coût. C'est vrai que c'est un très beau temple qui a eu un coût. Les catholiques ont demandé que, compte tenu du nombre de catholiques qu'ils étaient dans la ville d'Orléans, il leur soit alloué les sommes correspondant au prorata. Inutile de dire que ça, c'était une polémique qui était épouvantable par rapport à ces protestants qui, jusqu'ici, n'avaient aucun lieu et ne pouvaient se réunir que dans des salles communes, entre guillemets. Ça a toujours été le problème du protestantisme depuis 300 ans avant. C'est où se réunit-on, où peut-on entendre la parole de Dieu? On l'a fait dans les granges, on l'a fait dans les campagnes, on l'a fait aux chaînes de l'Évangile dans Forêt d'Orléans, on l'a fait partout, en fait, sauf dans un endroit dédié,
sur autorisé.
On se sente plus mineur, on se sente majeur. C'est-à-dire qu'on est un droit, proprement dit. Même chose par rapport au temple qui a eu en Lyon, en Beauce, c'est-à-dire les temples, on a cité...
Gobert.
Gobert, on a cité... alors Gobert, c'est encore très très spécifique, ils étaient très libres par rapport au protestantisme lui-même. Ça a été Patay, ça a été Neuville, et puis on pense qu'il y a eu aussi... des endroits ailleurs où se sont implantés des temples, surtout sur le Val-de-Loire. Mais pour la partie de cette Beauce orléanaise proprement dit, principalement, on est sur Patay et Neuville.
D'accord.
Neuville, c'est un très beau temple qui a été fait pour une communauté assez nombreuse. Et cette communauté à Neuville était des gens qui étaient assez libres penseurs. Mmh. C'était pour la plupart des agriculteurs. C'est des agriculteurs qu'en plus, qui n'habitaient pas Neuville proprement dit, mais les hameaux circonvoisins. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore intégré ce que les catholiques appelaient le territoire d'eau bénite, qui était le village proprement dit. Ils n'avaient toujours pas le droit d'être enterrés dans le même cimetière, ou alors dans un coin où on met une haie vive entre les deux, ou voire un mur entre les deux. Mmh. Cimetière de Neuville, il y a une porte spécifiquement pour les protestants, une porte pour les catholiques.
D'accord. Encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, sauf qu'elle a été murée.
Bien sûr.
Mais cimetière d'Orléans, qui était sur le parc Pasteur, proprement dit, il y avait le côté des protestants et des personnes qui avaient été mises à mort pour raison de justice au même endroit. Enfin, et on est après la Révolution. Donc c'était quand même assez difficile. Ces gens-là à Neuville avaient un temple. Ce temple, ils le fréquentaient, mais ils fréquentaient aussi des idées. Et dans ces idées, il y a eu quelque chose qui les a révoltés, qui était l'esclavage. Et avant même que le Conseil des Anciens n'ait travaillé sur l'esclavage, avant même que tout le travail soit fait au niveau gouvernemental pour en arrêter cette ignominie qu'est l'esclavage, ils avaient pétitionné ensemble en disant « il faut absolument que ceci s'arrête, c'est une inhumanité ». Alors là, cet acte de citoyenneté proprement dit par rapport à cette notion d'humanisme était le premier en France avant l'arrêt de l'esclavage. Mmh. C'est donc quelque chose d'exceptionnel. Ce sont des justes parmi les justes, entre guillemets, on veut s'exprimer ainsi. Donc voilà, cette mentalité protestante étant différente, ces gens-là ont pris en charge les autres, se sont retrouvés comme adjoints au maire, se sont retrouvés comme maire, etc., et ont une forme de pensée qui les a conduits à toujours essayer d'être du côté de la démocratie, voire même de la République. Et on les retrouve dans tous les grands républicains après 70.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, jusqu'à maintenant, on a parlé du 19e siècle avec la protestation contre l'esclavage. Et puis ça s'est prolongé après sur le 20e siècle avec des familles connues comme la famille Jox, la famille...
Oui.
On en a parlé tout à l'heure. Là encore, des libres penseurs et des précurseurs.
Tout à fait. On se retrouve effectivement avec des gens qui, d'origine, ont eu des ancêtres protestants, ont exprimé des idées qui étaient des idées républicaines inspirées de ces idées protestantes et sont venues aux affaires. Le secrétin était très connu comme étant effectivement quelqu'un qui était assez proche du milieu protestant et très ami avec le maître qui a écrit les persécutions qu'il y a eu à Neuville-aux-Bois. C'est hélas quelque chose qui n'est encore jamais sorti, qui n'a jamais été édité, ou avec François Hochecorne, qui était le bibliothécaire de la ville d'Orléans, qui a été aussi président de la Société archéologique d'Orléans pendant un moment, avec lequel j'ai eu la chance de travailler au début de ma jeunesse sur le protestantisme à l'époque.
D'accord. Voilà. Pierre, donc on a beaucoup parlé de l'histoire du protestantisme. On peut un petit peu parler à nouveau du protestantisme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est encore très répandu, mais on en parle assez peu finalement.
Alors, on a en France des protestants qui se sont associés à une fédération globale, qui ont différents... les branches ont différentes histoires. Les luthériens et les calvinistes sont réunis maintenant ensemble et font leur démarche ensemble. Sur l'Orléanais, je présume qu'il doit y avoir 200, 300 familles, 800, 1000 personnes. C'est pas énorme. Dans les villages proprement dit, la plupart du temps, sauf dans les endroits où ça a persisté, comme Gobert, on a cité tout à l'heure, où le village entier est resté protestant, ils sont pas minoritaires parce qu'ils sont individualisés. Souvent, ils sont d'ailleurs d'origine luthérienne et pas forcément d'origine calviniste. Ce sont des gens qui sont venus de Hollande, qui ont épousé une telle ou un tel qui était plus joli que les autres ici sur notre territoire. Moi, j'ai comme exemple la famille Brouard de Saint-Lyé. Don Philippe était catholique et Jutta était protestante allemande, proprement dit. Ils ont eu quand même énormément de mal à se faire intégrer par la communauté catholique, au point où ils ont fréquenté la religion catholique sur une autre paroisse, parce qu'ils étaient mieux accueillis. Moi, j'ai vu effectivement leur acte de mariage et tout ça. Il y avait dedans des expressions du catholicisme et des expressions du protestantisme associées.
C'est une forme de tolérance.
Ah, tout à fait. Et ils ont une magnifique Bible en hébreu, qui est effectivement la Bible de Calvin, non encore traduite.
D'accord.
Proprement dit, qui est certainement je pense du XVIIe siècle.
On peut résumer en disant que finalement, les pays méditerranéens comme la France sont plus des pays catholiques et les pays anglo-saxons, Pays-Bas, Allemagne, Angleterre, sont plus tendance protestante.
C'est tout à fait leur histoire. C'est vrai que choisir une religion pour un prince allemand, c'est quelque chose d'indispensable. S'éloigner d'un autre pouvoir, entre autres celui du pape, c'est aussi indispensable. Donc, Luther a été très bien accepté, ou même d'autres, ou d'autres ont été très bien acceptés en termes d'idées et de changement d'idées. Mais si le prince restait catholique, sa principauté restait catholique. Et ça, c'était respecté. Sauf par le roi de France, qui bien sûr a fait des guerres contre les catholiques en Allemagne avec les protestants. C'était la fameuse guerre de 30 ans, où là, ça a été une extermination. Il y a un Allemand sur trois qui est mort. C'est vraiment encore une horreur. Et là, il y a eu des prétextes qui, paraît-il, étaient religieux, mais en fait, qui étaient simplement des prétextes politiques par rapport à ne pas avoir et l'Allemagne et l'Espagne qui, ensemble, sont gérées par les mêmes personnes et la France coincée entre les deux. Voilà.
Mais, Pierre, merci. C'est intéressant parce que finalement, on s'aperçoit qu'encore aujourd'hui, évidemment, les questions de religion influent beaucoup sur les événements, sur l'histoire du monde dans d'autres secteurs géographiques comme au Moyen-Orient. Mais on s'aperçoit que finalement, à l'époque, l'histoire de France, elle était énormément conditionnée et influencée par les questions de religion. Ça a été les catholiques et les protestants.
Oui, c'est vraiment... On voit qu'à part une minorité des catholiques, les catholiques ont été toujours du côté très conservateur, royaliste, et qu'on retrouve les protestants chez certains bonapartistes, mais surtout chez les républicains. Ils ont choisi la laïcité, ils ont choisi la séparation de l'Église et de l'État dans leur mentalité depuis la Révolution française, alors qu'on l'a eu un siècle plus tard, pratiquement. Ils ont dit que la religion était quelque chose de personnel, d'individuel, que les gens avaient le droit de s'organiser entre eux, entre individuels, mais n'avaient pas le droit d'obliger l'autre. Obliger l'autre, c'est une horreur. Voilà. Certains l'ont fait. Il n'y a pas chez les protestants des gens qui sont tout blancs et chez les catholiques des gens qui sont tout noirs. Même Calvin a demandé à ce qu'un des protestants qu'il connaissait soit condamné au bûcher parce qu'il le sentait hérétique. Donc on est sur des choses qui sont pas claires. Mais au moins il y a une tendance globale à tirer d'un côté plutôt que de l'autre.
Ok.
Voilà.
Merci Pierre, on a appris énormément de choses avec toi aujourd'hui sur l'histoire de France, l'histoire de l'Orléanais et l'histoire de la Beauce en particulier. Et on a appris notamment une chose, c'est que l'histoire et la religion, c'est deux choses qui sont intimement liées. Et donc c'était important aujourd'hui de parler du catholicisme et du protestantisme. Et donc on a appris que c'était un épisode important de l'histoire de France, les guerres de religion, la réforme, la Saint-Barthélemy. Donc merci pour cette petite leçon d'histoire, Pierre, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour d'autres occasions et d'autres sujets sur lesquels tu pourras nous parler d'histoire, de ton histoire et de notre histoire.
Eh bien, comme diraient les Canadiens, ça me fait plaisir.
Voilà. Merci Pierre et à bientôt. Au revoir.